Fréquence protestante, le Midi Magazine, Philippe Arondel.
Bonjour à tous pour un nouveau Midi Magazine qui sera consacré aujourd'hui à un sujet dont on parle finalement assez peu, les relations qui peuvent être entretenues ou non entretenues entre la psychanalyse et le christianisme. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Lemoine, dominicain et psychanalyste, qui vient de publier un livre qui s'appelle tout simplement « Quoi de neuf docteur ?». Le sous-titre, c'est « La psychanalyse au fil du religieux ». Bonjour Laurent Lemoine. D'abord, tiens, une petite question toute bébête. Comment, étant dominicain, on devient psychanalyste? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, dans le fond, on se dit « Tiens, je vais faire de la psychanalyse, je vais être psychanalyste ».
C'est pas spécialement en étant dominicain.
Oui, bien sûr, j'entends bien. Oui.
Dans, il se trouve que j'étais dominicain et que, comme beaucoup de gens qui ont une souffrance et qui ont besoin de parler, je suis allé rencontrer un psychanalyste. Et donc ça s'est fait comme ça.
Ouais. Ah, vous avez commencé par vous ?
Ah bah oui, j'ai commencé,
ça commence toujours comme ça,
j'ai commencé par faire une analyse et je me suis posé éventuellement la question ensuite de devenir analyste.
D'accord, très très bien. Oui, mais c'est quand même important. Alors vous dites d'ailleurs que le pape François lui-même, vous commencez le livre, lui-même, ça a beaucoup étonné les gens.
Oui,
parce que
on n'a pas la notion que les papes aient fait des psychanalyses, en tout cas depuis l'invention de la psychanalyse, oui. Évidemment. Oui. Mais celui-ci a fait un bout de psychanalyse, c'est pas grand-chose. Hein. Oui. Il dit qu'il a fait, dans son dernier livre avec Monsieur Volton, il dit qu'il a fait... 6 mois, je crois. 6 mois, c'est une toute petite tranche. Hein, mais enfin, il a fait un petit itinéraire.
Ouais. D'accord. Alors, le livre, il porte, on va commencer par ce petit débat-là, même un grand débat, il porte sur la méfiance réciproque qu'il y a eu. Vous parlez en tant que catholique. Hein, bon, l'Église catholique, la méfiance sourde qu'a entretenue l'Église catholique, si j'ose dire, avec la psychanalyse. Alors, à un moment donné, vous parlez de Paul VI qui avait une neutralité, finalement, mais un peu non bienveillante, comme dit Rudinesco et Elisabeth Rudinesco à l'égard de la psychanalyse. Vous dites très bien qu'il y a quand même eu, depuis le départ, et sans doute encore aujourd'hui, je ne sais pas, je me trompe peut-être. Bon, dans le fond, on se dit, c'est pas possible qu'on puisse lier les deux comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ben, la méfiance, il y a une méfiance historique, oui. Je dis dans mon livre que la psychanalyse a jamais été formellement condamnée par l'Église catholique, mais il y a eu une méfiance qui tient à ce que... Enfin, Freud fait partie des maîtres du soupçon quand même. Oui. Et donc, il a quand même tordu le cou, si je puis dire, à Dieu le Père. Oui. Et c'était pas spontanément très porteur pour être accepté et adoubé par l'Église. Hein. Ouais. Donc il y a cette figure, il y a cette raison-là. Puis il y a une autre raison aussi, ce qui tient, je pense, à l'enseignement de Freud lui-même, qui touche beaucoup aux questions de sexualité, ou de psychosexualité, pour être vraiment freudien. Et en fait, cet enseignement, on ne peut pas dire qu'il soit d'une compatibilité parfaite avec l'enseignement de l'Église catholique.
Ouais. Encore que l'Église catholique, si on regarde son histoire, finalement, n'a pas été si... toujours répressive d'une certaine manière.
Bah, à l'égard de la psychanalyse, elle n'a pas été très répressive. Ouais. L'Église n'a jamais empêché les chrétiens qui vont, les catholiques qui vont mal dans leur tête, d'aller voir un psychanalyste.
Bien sûr, ouais.
Voilà. Enfin, donc il n'y a pas une l'hostilité. Elle est un peu sourde. Elle est un peu. Si, il y a une méfiance du type ah bah tu fais une psychanalyse. Ah oui, un catholique qui fait une psychanalyse, peut-être un protestant qui fait. Ouais. Tu fais une psychanalyse, mais alors avec qui ? Est-ce que tu sais que sais-tu si ce psychanalyste est chrétien ? Ah non, parce que moi, je peux te conseiller un psychanalyste chrétien. L'air de dire, c'est moins dangereux, donc vas-y, ce sera pas, tu vas pas perdre la foi ni divorcer. Quoi.
Ouais. Mais alors, vous dites, pour revenir sur les maîtres du soupçon, c'est très intéressant, parce que Freud, en effet, avec d'autres, effectivement, l'hypothèse Dieu, parce que c'est ça aussi le problème, sans doute, pour les chrétiens, les catholiques et les autres, l'hypothèse Dieu est évacuée du débat, d'élabore, si j'ose dire, lui-même dans sa vie, Freud, dans le fond, de religion juive, était un juif de culture.
Oui.
Voilà, par sa famille, mais dans le fond, voilà, bon, on connaît ses péripéties avec sa femme, il voulait pas se marier religieusement, etc. Bon. Donc, d'une certaine façon, on a l'impression que l'hypothèse de Dieu est évacuée, et surtout, deuxième chose, c'est deux questions, mais qui sont liées, que dans la psychanalyse, dans la cure, on va finir par expulser Dieu, dans la mesure où on va expliquer ce qui se passe dans la tête des gens et dans l'âme des gens. Enfin, le mot âme n'est pas employé par Freud.
Si.
Oui, vous dites plutôt esprit. Vous dites
C'est-à-dire qu'il y a quand même le mot, il y a quand même le mot âme. Seele en allemand. Après, c'est des questions de traduction en français.
Ah, d'accord. Vous dites parce que c'est pas tout à fait la même chose en français.
Oui, non, mais c'est parce que la traduction a oscillé entre l'âme et entre l'âme, l'esprit. Parfois, on était vers l'idée, etc.
Ouais. Parce que pour un français, âme et esprit.
Oui. Alors, mais sinon, dans votre question, il y a deux questions. Voilà, il y a Freud lui-même. C'est vrai qu'il est de culture. Il n'a jamais été un pieux juif, si vous voulez, mais il est de culture juive et ça c'est incontestable. Il s'est même inscrit à une association qui défendait cela quand il était encore assez jeune. Il a un rapport à la religion qui est très étrange, Freud, très particulier, parce que en réalité beaucoup de ses œuvres sont s'est passionné dans son travail pour la religion. La religion sur le plan privé, mais la religion aussi sur le plan de la culture. Et donc, on a une œuvre considérable de l'athée Freud sur la religion. Donc, c'est quand même quelque chose qui l'a vraiment beaucoup intéressé. Ça, c'est pour Freud. Pour la deuxième question, qui était sur l'actualité ?
C'était le rapport de l'hypothèse Dieu qui est évacuée. Parce que Freud il est dans un champ intellectuel de l'époque qui est largement scientiste. Dites très bien dans le livre.
À son époque, c'était du scientisme. Donc l'hypothèse Dieu, réfléchissait en se passant de Dieu aisément. Oui. En réalité, ce qu'on voit Freud lui-même a dit qu'il était indifférent à la question de la religion, en réalité, et que lorsqu'on était analyste, il fallait adopter cette neutralité qui fait qu'on est indifférent à l'égard de la religion. Ouais. C'est une posture, on pourrait dire, éthique pour le psychanalyste. Ouais. Ensuite, on voit de tout dans une analyse. On voit des gens qui, effectivement, perdent la foi. Mais quand ils perdent la foi, il faut savoir ce qu'ils ont perdu.
Voilà, c'est ce que vous dites très bien. Ils ont perdu quoi, finalement ?
Ils ont perdu un objet. Ils ont perdu quoi ? Ils ont perdu papa, maman, ils ont perdu quoi ? Et puis on voit des gens qui, dans une analyse, retrouvent la foi ou font bouger leur foi, c'est-à-dire qu'en fait, leur représentation de Dieu évolue vers, j'ose pas tout dire, une nouvelle naissance, pour reprendre l'image johannique, si vous voulez, parce que la nouvelle naissance, c'est quand même un peu aussi un fantasme. Mais leur foi bouge, leur foi est travaillée, leur foi est réaménagée, comme d'autres éléments de leur vie psychique.
Vous êtes en train de me dire, c'est assez extraordinaire, que dans le fond, ceux qui perdent, ils perdent quoi ? Vous dites, peut-être finalement quelque chose qui était faux. Vous êtes en train de me dire, non mais c'est curieux, parce que je vais un peu loin, je le fais exprès pour qu'on puisse discuter, mais peut-être que dans le fond, il y a eu un grand déblayage qui s'est fait aussi sur des choses, avec des choses, si vous voulez dire, on a donné un grand coup de balai, et on s'aperçoit peut-être, s'il y a une perte de foi, qu'elle n'était pas si...
Je pense qu'ils perdent ce qu'on peut appeler, ce que d'autres ont appelé la religion des parents. C'est-à-dire, vous savez, la transmission, l'héritage, le fait que lorsqu'on vit sa vie d'adulte, en réalité, on se rend compte dans une analyse que on accomplit le désir de ses parents sur sa vie et qu'on n'est pas loin d'être autonome. Et donc, je crois que la première chose qu'on perd en analyse lorsque la question religieuse vient en cure, vient à la parole, c'est la religion des parents. C'est-à-dire, c'est effectivement une... on dit souvent que la psychanalyse est une entreprise de déresponsabilisation, c'est totalement faux. C'est au contraire une entreprise de responsabilité du sujet, j'allais dire du sujet autonome, et je dis autonome parce que, autonome, Lacan serait moins optimiste que moi, mais autonome au sens de l'autonomie des Lumières, Freud est un héritier des Lumières.
Oui. C'est quoi, vous êtes en train de me dire que quand on perd quelque chose, parce que je pense que la grande peur des chrétiens, elle est là quand même. La grande peur des chrétiens, c'est que dans le fond, certains s'aperçoivent que donc ils croyaient quelque chose à laquelle ils croyaient pas finalement, d'une certaine manière. Parce que vous êtes en train de me dire qu'on liquide une sorte, entre guillemets, une filiation culturelle, pas de religion des parents. C'est une filiation culturelle, finalement.
La religion, c'est pas seulement une filiation culturelle, c'est une filiation, j'allais dire, naturel, j'aime pas ce mot-là, mais c'est la filiation vraiment de l'enfant vis-à-vis de ses deux parents, et de la, quand il y en a eu deux, et de la manière dont, dont il a perçu, reçu la religion. C'est-à-dire, voyant ses parents pratiquer, voyant ses parents aller à l'église, voyant ses parents lui demander d'aller au catéchisme par les bons prêtres, etc. Et donc, il y a, si vous voulez, un univers culturel, effectivement, que l'enfant a intégré, mais qui se joue aussi dans la relation très intime avec les deux parents. Et donc, c'est cette religion des parents vis-à-vis de laquelle il est, pour devenir adulte, obligé, comme d'autres éléments de sa vie, de s'autonomiser ou de se séparer.
Mais en même temps, on se construit. Mais ce que je veux dire, il y a une dialectique construction-déconstruction. Parce que ce que vous dites là, en même temps, c'est une construction inévitable. Et en plus, si on ne l'a pas, on n'est certainement pas bien dans sa tête.
Je serais même un peu nuancé sur déconstruction. Oui. Enfin, je dirais, c'est une analyse au sens étymologique du terme. C'est-à-dire que l'analysant sépare, comme dans un précipité chimique, dit Freud, sépare les éléments qui ont composé sa vie psychique quand il était gamin, puis adolescent, etc. Séparer, ça veut dire identifier, si vous voulez, et puis il se trouve que dans ce puzzle, il y a des éléments qu'on identifie bien, il y a des pièces plus manquantes, comme dirait Lacan, il y a des manques, etc. Et puis on n'est pas obligé de remplir complètement le puzzle. Celui qui a tout trouvé de son qui a tout trouvé de son univers psychique infantile, c'est le psychotique. Donc, il vaut mieux laisser des trous, comme dirait Lacan, ou des éléments manquants.
Comme on dirait dans notre langage aujourd'hui, peut-être pas toujours de la transparence sur tout.
Parce que votre question porte sur la religion, on pourrait dire la même chose sur l'ensemble de l'héritage des parents, via leurs croyances politiques, leur métier, ce que Freud décrivait en termes de la scène initiale des parents qui font l'amour, etc. Il y a tout ça, si vous voulez. Et donc, c'est tout ça dont l'enfant, devenu adulte, ou l'adulte sous les traits l'enfant sous les traits de l'adulte, travaille en psychanalyse et sépare les éléments pour réaménager autrement sa vie psychique.
Ouais. Alors, un dernier point avant qu'on fasse une première petite pause. Il y a le fait, vous comprenez bien aussi, alors c'est difficile à dire, qu'il y a souvent, comment dirais-je ? Pas forcément, mais pour beaucoup de gens qui nous écoutent, et quand on lit des textes, parfois, alors il y a les bons psychanalystes, il y a la psychanalyse commune, si j'ose dire, à l'américaine, il y a un grand déballage. Les gens ont peur d'un grand déballage. Vous voyez ce que je veux dire ? Je dirais comme Malraux, un misérable petit tas de secrets, dans le fond, on veut pas trop y toucher d'une certaine manière. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et que cette histoire-là, si j'ose dire, parce que c'est une histoire personnelle, elle est mal vécue, sans doute. Oui. Et que pour les chrétiens, en plus, elle est encore plus mal vécue, parce que dans le fond, ça peut heurter un sens commun religieux. Je ne sais pas, je ne trouve pas d'autres mots, mais c'est un peu ça.
Ce qui a heurté à l'origine le sens commun religieux, Freud appelait la morale civilisée, c'est que le fait que l'enfant puisse être un polymorphe pervers, donc c'est la première chose qui a heurté. Mais Freud disait exactement, l'enfant peut être un polymorphe.
Donc il n'est pas forcément.
Ensuite, bien entendu, l'analyse est une entreprise difficile et c'est une entreprise qui secoue ou qui agite la boue.
Je parlais de déballage.
Louis Bernard, qui était un jésuite psychanalyste, dit la psychanalyse remue la fange et la boue. Et personne n'a envie de le faire pour soi-même. On est tranquille de ne pas le faire. Sauf que parfois, les symptômes nous rattrapent. Et que là, la psychanalyse devient une question de vérité. Pas d'abord une question de guérison, mais une question de vérité.
Oui, mais la vérité, une fois qu'on a dit vérité, vous voyez ce que je veux dire ? Jusqu'où ? Parce que le problème, c'est que la vérité vous rendra libre, d'accord ?
Mais dans un premier temps. La vérité libère pourvu qu'on arrive à en faire quelque chose.
Oui, mais alors justement, le problème, c'est que cette vérité de la psychanalyse, enfin, en tout cas, ce chemin de vérité...
C'est pas la vérité de la psychanalyse, c'est la vérité qui émerge peu à peu de l'itinéraire analytique, par la parole.
Ouais. Mais est-ce que nous le voulons suffisamment ?
Non, on le veut pas.
On
le veut pas. C'est Édipe à Colomne, c'est Édipe... on le veut pas, au contraire, on n'en veut rien savoir.
D'accord. Allez, on va peut-être essayer de prendre une première petite pause. C'est très intéressant. On va retrouver cette histoire du chemin. On va faire une première petite pause avec Morane. Tiens, vous allez voir pourquoi la serveuse de la complainte automate.
Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. À partir de ce jour-là, Johnny et Sadia ne se sont plus quittés. Et les étoiles noires ont fait la une des journaux du soir. Au fond, Johnny n'avait qu'une envie, c'était de faire parler de lui. On peut dire qu'il a réussi. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais moi, je me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. J'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement qu'on me fiche la paix. J'ai pas envie de faire comme tout le monde. Mais faut bien que je paye mon loyer. Je travaille à l'Underground Café. Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. Même quand je tiens plus debout sur mes pattes, je suis toujours prête à m'envoler. Je travaille à l'Underground Café. Un jour vous verrez la serveuse automate. C'est dommage.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Philippe Arondel.
Alors aujourd'hui avec nous en direct, Laurent Lemoine pour son livre « Quoi de neuf ? La psychanalyse au fil du religieux ». C'est paru aux excellentes éditions Salvator. Alors Laurent Lemoine, cette chanson qui est Starmania, beaucoup de gens connaissent, magnifiquement chantée par Brun. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? J'en sais trop rien, dit-elle dans ses paroles. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que dans le fond, on s'aperçoit que ces questionnements-là, qui sont, bon, là, effectivement, autour d'une chanson, ils ont toujours existé, dans le fond.
Oui.
La réflexion sur soi, le souci de soi, vous dites très bien, c'est dans les anciens, l'Antiquité, les stoïciens, etc. Bon, ils ont toujours été...
On n'a pas attendu la psychanalyse et Freud pour se poser ce genre de questions.
Voilà.
Y a l'expression est abusive qui consiste à dire que Freud a... inventé la psychanalyse, disons, ou non. Oui, il a inventé, si on veut, la psychanalyse, mais il n'a pas inventé l'inconscient.
Voilà.
Donc, il a d'ailleurs, il y a de très nombreux textes très, 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 très antérieurs à Freud, déjà chez Augustin, ou après tout, dans la Bible aussi, n'est-ce pas, où on voit, ou dans l'Antiquité païenne, n'est-ce pas, où la question du questionnement sur soi, du souci de soi, dirait Foucault, se pose. Alors, il se trouve que Freud a organisé... Cet exercice dans le cadre de la psychanalyse.
Oui.
Et il a appelé l'inconscient ce qui était pressenti bien avant lui. Après tout, moi qui suis dominicain, au XIIIe siècle, chez Thomas d'Aquin, on trouve on trouve une sorte de pressentiment de l'inconscient.
Oui.
Thomas d'Aquin a tout un développement sur, plus qu'un développement, un traité sur les passions de l'âme, par exemple sur la haine, que Freud aurait pu exagérer. À peine signer des deux mains.
D'accord. Donc, alors, c'est ce qui vous fait dire, mais vous répondez qu'attention, il ne faut pas tout mélanger, c'est qu'il ne faut pas dire comme certains, j'ai trouvé ça très intéressant, dans le fond, on ne peut pas assimiler, j'allais dire naïvement, la psychanalyse à un exercice spirituel.
Non.
Ce n'est pas Ignace de Loyola
qui t'a su.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Non,
parce que vous dites ça, à un moment donné, il y a des gens qui le disent.
Oui,
non, vous dites que c'est quand même très différent.
C'est absolument différent. C'est-à-dire, on peut assimiler la psychanalyse à plein de choses. C'est complètement faux à chaque fois. Mais il peut y avoir de fausses ressemblances. C'est-à-dire, on peut dire la psychanalyse est une médecine ou un médicament. Non. La psychanalyse est de l'ordre d'une démarche philosophique. En fait, non. La psychanalyse est de l'ordre d'un exercice spirituel. En fait, non. Alors, il y a des ressemblances, mais on dit en théologie, tout ça, ce sont des analogies. C'est-à-dire, ça ressemble beaucoup, mais en réalité... la dissemblance est encore beaucoup plus forte. Ouais. La psychanalyse n'est ni une médecine, ni un exercice spirituel, ni une sagesse. Oui, encore oui. que, peut-être on pourrait la... Oui. Une sorte de sagesse un peu paradoxale, profane en tout cas, ouais. on pourrait dire ça. Oui.
Donc, dans ce cas-là,
ça nous renverrait.
Ça nous renverrait un peu à ce cas-là, un petit peu à l'Antiquité avec Foucault.
Ça nous renvoie beaucoup à l'Antiquité. On pourrait dire, la psychanalyse est d'abord un art de l'écoute, oui. je pense. On pourrait dire aussi un art thérapeutique, mais je me méfie un peu de l'idée de thérapie, parce que thérapie glisse vers finalement la rééducation du comportement de la personne, et ça, la psychanalyse n'en a rien à faire. Oui, c'est d'abord un art de l'écoute, je pense, et il s'agit quand même de permettre au sujet d'identifier autrement les éléments qui ont constitué sa vie pour les réorganiser plus librement s'il le souhaite.
Les réaménager. L'aménagement de soi, vous
et
dites.
Les réinvestir autrement, c'est-à-dire, je ne sais pas, choisir un autre métier, refaire sa vie, pourquoi pas, on le voit beaucoup.
Alors, ça passe par, comme vous dites très bien, c'est d'abord des paroles. Ça passe par la parole.
C'est une cure de parole.
Voilà, c'est ça, c'est très intéressant.
C'est la talking cure, c'est la cure de parole. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Freud pensait que l'avènement de la parole était ce qui permettait le mieux au sujet de se dégager des imbroglios de sa souffrance.
Alors, c'est une cure de parole. Alors, moi qui aime bien Kafka écrit dans un de ses textes une lettre, je crois, à une amie. Il dit écrire. Alors, lui, c'est pas faire une cure ou c'est pas analyser. Il dit écrire. Il dit, c'est briser la mer gelée qui est en nous. Et je me demande s'il n'y a pas un peu de ça, la psychanalyse, d'un seul coup. Oui. Il y a un grand dégel, alors qui peut être violent, qui peut être difficile, sans doute dangereux. Ça fait mal, comme dit.
Oui, Lacan dit ça fait mal.
Ça fait mal.
Il y a un dégel. Et alors, on n'apprécie pas forcément ce qu'on trouve sous la glace. Mais encore une fois, c'est une question de vérité, si vous voulez. Je ne sais plus si je donne l'exemple, mais je dis parfois l'idée de Édipe à Colonne, quoi. Le prix de l'accession à la vérité, c'est l'aveuglement, quoi. On avance les yeux crevés dans la vie.
C'est ce que vous dites très bien.
Parce que la vérité, quand on veut la regarder de face et qu'on est dans une souffrance insupportable, il se passe le phénomène de la gorgone. Vous êtes sidéré par la gorgone. La vérité du cheminement analytique est un cheminement très progressif, c'est que vous pouvez la regarder sans qu'elle vous menace et vous pouvez porter sur votre vie un regard beaucoup plus apaisé.
Donc, on ne va pas dire guérison, parce que vous dites très bien, c'est un mot... compliqué.
C'est un mot piège, un peu, le guérison.
Voilà, c'est ça. Parce que il y a sans doute des gens qui vont beaucoup mieux, on peut dire ça comme ça.
Oui, il y a des gens qui vont beaucoup mieux. L'objectif de la psychanalyse n'est pas forcément d'aller beaucoup mieux. Oui, d'ailleurs, au début, c'est bizarre quand quelqu'un va beaucoup mieux. Ça va trop vite, si vous voulez. Oui. Parce qu'aller beaucoup mieux, c'est comparer la psychanalyse à vous allez chez votre médecin traitant, vous avez 8 jours d'antibiotiques et vous allez beaucoup mieux.
Non, mais dans certains cas extrêmes, vous dites très bien vous-même, comme pour les petites recettes médicales dont on parlera tout à l'heure, c'est pas mal.
Oui, mais c'est pas des cas extrêmes, c'est très courant. C'est-à-dire que maintenant, on a des demandes de la part d'analysants qui acceptent une analyse. Ah oui, mais dites-moi, docteur, pourvu que j'aille mieux assez vite, il faut que ça marche. Oui. Mais ça veut dire quoi, il faut que ça marche? La psychanalyse n'est pas une rééducation à bon compte. D'ailleurs, c'est pas à bon compte parce qu'il faut payer et y mettre un peu du sien. C'est-à-dire combien vaut votre vie, quoi. Vous estimez à combien votre vie.
Donc, c'est pas un antibiotique de l'âme, si j'ose dire.
Non, certainement pas.
Non, je dis ça parce que...
On dit ça, vous savez, les pères de l'Église disent ça de la scène ou bien de l'Eucharistie, à savoir, c'est le médicament, le médicament de l'âme. La psychanalyse n'est pas un médicament.
Non, d'accord. Alors, ceci étant dit, dans votre livre, on voit bien qu'il y a à la fois des différences essentielles et en même temps, il y a peut-être des passerelles qui peuvent s'ouvrir. Et sur ce dont on vient de parler, à la page 90-91, vous dites que c'est une désintrication. C'est très intéressant.
C'est un peu jargonnant, ça, désintrication.
Oui, non, mais bon, je veux dire, du chemin qui mène à la mort, d'une part, et du chemin qui mène à la vie, d'autre part. Et là, à ce moment-là, vous citez le Deutéronome. Qu'on peut citer. C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous, c'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives. Bon. Oui. Et c'est intéressant parce que ça veut dire, bon, peut-être faut pas exagérer trop les passerelles, mais peut-être que là, il y a une passerelle possible pour passer de la parole avec un petit P, j'allais dire à la parole avec un grand P, je retrouve encore Kafka, excusez-moi, qui disait, écrire pour moi, c'est faire un bond hors du rang des assassins. C'est-à-dire que c'est peut-être sortir d'une logique de violence, de meurtre, qui est en nous, d'ailleurs, entre parenthèses. Bon, alors, on pourrait parler de René Girard, qui a magnifiquement parlé de tout ça. Ouais. Et peut-être que c'est peut-être là qu'il y a la passerelle. C'est un peu complexe. Et il y a une possibilité de rapprocher des choses qui sont complètement différentes.
Bah, on peut les rapprocher par commodité. Moi, j'ai cité le Deutéronome parce que j'ai constaté dans les cures cette situation absolument... Ouais. Étonnante et qui est toujours bouleversante pour un analyste, même si il faut qu'il se calme quand il constate ça. Ouais. C'est que je pense par exemple à des analysants très dépressifs, ou j'allais dire pire, si vous voulez. C'est très difficile pour un sujet qui est, je pense à la pire souffrance qui existe, probablement qui est la mélancolie, désintriquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier ce qui dans sa vie va mener à la vie, et de ce qui dans sa vie risque de conduire à la mort, et donc choisir le chemin de la vie, alors que la vie, on n'a plus envie de la vivre, c'est ce qu'il y a de plus redoutable. Freud disait par exemple, le deuil, on ne sait pas comment ça se fait, c'est un peu, il s'est un peu cogné à ce mystère là du deuil. Choisir la vie alors que la vie a été douloureuse, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un sujet. Et constater pour un analyste qu'un sujet arrive à le faire, ça donne envie de continuer ce métier-là. C'est un drôle de métier.
Mais savoir qu'on est dans cette situation, parce que c'est un peu ça la psychanalyse, c'est dans le fond être dans une forme de lucidité. Et dans le fond, savoir, ça peut amener toute une série de réponses. Vous parlez de mélancolie. Bon, on sait que la poésie, la grande poésie, s'est nourrie de mélancolie.
Oui.
La vraie mélancolie, je parle de la grande. Hein, l'art, quoi, enfin.
Oui, beaucoup de poètes. Oui, mais c'est-à-dire que évidemment, la psychanalyse va accréditer la thèse selon laquelle la souffrance, une certaine forme de souffrance est créatrice. Oui. L'art.
J'ai pas complètement dit ça, j'ai dit c'est une défaut.
Oui,
ça peut se rapprocher.
C'est votre question, mais j'ai ma réponse.
Oui, voilà, absolument.
C'est-à-dire, il y a ce courant-là, c'est vrai, mais regardez, je pense à Artaud, ou je pense à Hölderlin, etc., vous avez des créations chez ces personnes-là fulgurantes. Juste avant une crise psychiatrique, alors pour le coup, un basculement dans le néant absolument terrible.
La fin de le dernier, absolument.
Bon, et on trouve chez le même bonhomme, si vous voulez, ces phases-là de fulgurance poétique, et puis des phases de, ce qu'on dirait, l'écriture du désastre, quoi.
Oui, Maurice Blanchot, Mais d'accord. Bah, vous dites ça aussi, parce qu'il y a un autre aspect. Bon, puisqu'on parle de cet exemple-là, il est intéressant. Il y a aussi vous approchez, vous essayez de comprendre ces phénomènes. Alors, ce que vous appelez le délire mystique.
Ah oui.
Alors, oui, mais c'est un problème, d'ailleurs, entre parenthèses, sans doute pour un chrétien, parce que vous citez un certain nombre d'exemples. Et c'est vrai, quand on vous lit, on a du mal à déterminer toujours de façon claire. Vous me direz que c'est entremêlé, que c'est pas clair. Ce qui relève véritablement d'une maladie, d'un problème personnel qu'on essaye de résoudre comme on peut. Et puis, ce qui relèverait de l'intervention divine. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? J'y vais carrément, parce que vous citez deux ou trois cas, voilà.
C'est-à-dire que je vais éclairer beaucoup.
Mais c'est important
parce que. C'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est-à-dire. Et je me garderai bien de me prononcer là-dessus, si vous voulez. Mais dans le délire mystique, vous pouvez avoir. Enfin, dans la mystique.
Certains vous diront qu'il n'y a pas de délire mystique, d'ailleurs, entre parenthèses.
Alors, d'une mystique, délire religieux, je peux vous dire qu'il y en a. Parce que des délires religieux et mystiques, j'en ai vu et j'en vois tout le temps.
D'accord.
Et donc là, ça s'est bien accrédité et étayé, d'accord, si vous voulez. En revanche, ce qui est incontestable de dire, c'est que dans le délire mystique ou religieux, vous avez là encore des phases de création des phases des phases de vérité, hein, oui, au oui. sens où Freud disait dans tout délire demeure un grain de vérité. Oui. Et ben ce grain là, c'est une véritable pépite, hein, au c'est sens d'accord. où au oui. sens où on dit, vous savez, et on a raison quand on les voit à l'hôpital, les fous ils sont pas fous.
D'accord. Non mais là, parce que vous évoquez, je crois, c'est le cas de Saint-Thérèse d'Avila. Bon, enfin, je veux dire.
Ah bah oui.
Et là, on n'arrive pas à savoir si où est le. Bah, bon, dirais-je à dire le montage pulsionnel d'une certaine manière.
Ah bah si, Saint-Thérèse d'Avila, elle jouit, elle est dans la jouissance.
Oui, d'accord. Mais bon, après une fois qu'on a dit ça, on dit oui. Enfin. Oui,
ah bah c'est une jouissance supplémentaire.
D'accord. Ok. Mmh. Ben vous êtes, vous parlez comme Lacan, quoi, finalement.
Ah ben,
sur cette fameuse statue.
Sur cette question, oui, ben.
Du Bernin,
ouais. Allez voir la statue, je vous assure.
Mais je l'ai vu.
Vous êtes d'accord.
Mais je l'ai vu. Oui, mais enfin, bon.
Saint-Thérèse, elle jouit. Alors, voilà.
Mais vous comprenez très bien que pour ceux qui nous écoutent, c'est une formule qui est bah oui, difficile à entendre, vous voyez ce que je veux dire.
Non, mais il suffit de trouver une définition tranquille de ce que c'est que la jouissance.
Oui, c'est
il y,
ce
y en a d'autres, hein, dans la tradition chrétienne qui d'accord. sont, voilà, Saint-Augustin. Alors là, c'est beaucoup plus.
Oui, mais enfin, Saint-Augustin, une vie personnelle, si j'ose dire, avant.
Ah bah il a eu une vie enfin, personnelle dire, quand... assez décoincée, on c'est va dire, je... avant.
Oui, oh, bah, oui, vous êtes gentil quand vous oui. dites décoincée. Oui, oui. On pourrait, certains diraient aujourd'hui de quasi-débauche. Quoi.
Enfin, oui, voilà, de quasi-débauche, oui. Mais alors, d'où il faudrait interroger le phénomène de la conversion.
D'accord, oui.
Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un homme ou une femme réorganise voilà, justement voilà. sa vie autour d'une conversion, c'est-à-dire que toute son économie psychique se trouve mobilisée ouais. pour un changement radical. Alors bon, c'est Paul sur Damas, expérience
oui, voilà. exactement,
qui oui. relève d'une certaine mystique, etc., oui. hein, d'un certain au-delà, ce que Lacan appellerait le réel. Enfin,
d'accord,
voilà.
ouais, d'accord. Donc il y a bien un passage du petit P, je veux dire grand P. De la parole avec petit p, parole avec
oui,
un grand p.
Oui, il y a non, parce que... de la parole vide à la parole pleine.
D'accord. Bon, on dit ça, c'est la même chose, c'est pas forcément complètement la même chose non plus. Voilà.
Entre quoi et quoi
parole bah, entre et parole le petit pleine. P et le grand P. Je
veux dire. Oui, oui. C'est... Mais quand le verbe se fait chair, ça fait vachement mal, c'est sûr.
Voilà, comme disait Lacan. Allez, on va faire une deuxième petite pause. Stan Getz, les yeux de l'âme.
Thank you.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Philippe Arondel.
Alors, toujours avec nous, Quoi de neuf docteur, la psychanalyse au fil du religieux, Salvatore, les éditions Salvatore, c'est Laurent Lemoine. Laurent Lemoine, il y a beaucoup de pages qui sont consacrées. Alors, on retrouve même, il y a moins deux chapitres au moins, qui sont quand même consacrés, qui tournent autour de cette idée, du retour du religieux, du retour de l'ordre moral. Il y a un chapitre entier qui est consacré, mais les autres, il y a cette idée que dans le fond, la psychanalyse serait peut-être aussi menacée moins par le christianisme lui-même, quel qu'il soit, que par, je ne sais pas comment on peut dire, vous ne dites pas forcément fanatisme, un surreligieux, vous dites, j'ai bien aimé l'expression à un moment donné, un peu dévoyé.
Oui, surreligieux, voilà. Parce que je pensais à une expression de la confrère Fethi Ben Slama qui parle du surmusulman.
Oui.
Donc
oui.
Il y a un surreligieux. Remarquez, vous y pensez là. J'ai lu Frédéric Gros il y a peu de temps qui parle de la surobéissance.
Oui,
et je pense que la caractéristique du surreligieux, c'est qu'il est surobéissant, c'est-à-dire qu'on est de l'ordre de la servitude volontaire.
Oui.
Et je pense que les temps actuels sont ceux de la surreligion et de la surobéissance.
Ouais. Mais il faut peut-être faire des différences. Alors vous dites très bien. Vous dites bon, il y a une tentation d'ordre moral. Alors c'est vrai que quand j'ai lu la première fois, j'ai un peu sursauté. Parce que pour moi, ordre moral, ça renvoie, par exemple, je sais pas, à Mac Mahon, voilà, après la Commune, etc. Les premiers pèlerinages de Paris le Monial, je me suis dit, bon, l'ordre moral, c'est cette idée, dans le fond, qu'il faut remettre de l'ordre, faut remettre de la morale dans un monde qui aurait tout perdu, c'est ça?
Ah bah,
non, je sais pas, c'est le questionnement de ces nouveaux religieux.
C'est, si vous voulez, le procès fait habituellement sur mai 68. Par exemple, tous les auteurs qui ont travaillé, les auteurs, les grands philosophes, etc., où on parlait de Foucault, etc.
Bon,
j'entendais l'autre jour Philippe Solers qui disait, voilà, dans les publications qui sortent actuellement, on voit très bien qu'est organisé de manière systématique un procès de tous ces auteurs-là, etc., par ceux qui sont les tenants, et ce sont souvent des religieux, de l'ordre moral. Et c'est pour ça que j'essaie de distinguer dans mon livre ce qui est l'ordre moral adossé à l'ordre religieux, à ce que j'ai appelé à la fin de mon travail la foi. Et la foi, elle est libre vis-à-vis des carcans de l'ordre moral adossé à l'ordre religieux, si vous voulez.
Oui.
C'est-à-dire, l'ordre religieux, c'est, comme dit le pape François, c'est finalement une instrumentalisation.
D'accord.
Et la morale, et non pas l'éthique, la morale est ce qui vient, est l'instrumentalisation par excellence de la religion.
Mais vous comprenez bien que quand vous dites ça, et que on va peut-être distinguer, il y a le djihadisme, qui est le surreligieux monstrueux, ce que vous dites très très bien. Bon, ça, on peut tous être d'accord là-dessus, je pense que ça ne pose pas de problème.
Oui.
Mais vous comprenez bien que quand vous parlez de toutes les religions en tant que telles, ça peut percuter d'une façon assez violente. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est bien, mais ça me dérange pas.
Moi non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que
je pense que ce phénomène-là, il est transversal, effectivement, aux grandes religions. Ça n'est pas. Bien sûr, la menace est plus grande du côté de l'islamisme et du fanatisme. C'est la menace à laquelle nous confrontons en France depuis quelques années. Bien sûr que là, la violence est beaucoup plus extrémisée encore. Mais je pense que cette tentation est proche, si vous voulez, concerne les autres grandes religions dites abusivement du livre. Je pense dans le christianisme, si vous voulez, vous avez des nouvelles communautés récentes dans d'autres pays ou d'autres continents, dont on voit très bien que, par exemple, leur lecture des Écritures est une lecture tout à fait fondamentaliste, à rebours de ce que l'on sait d'un point de vue historique. C'est pour moi le retour d'un religieux qui doit nécessiter notre vigilance.
Mais ça, c'est le retour du religieux dans... Vous êtes catholique, dans l'Église catholique, les communautés en question, on pourrait les nommer.
Seulement.
Non, pas seulement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour vous, par exemple, l'impact, c'est dans l'organisation dans laquelle vous êtes, d'une certaine manière.
Ah non, mon regard est au-delà de l'Église catholique.
D'accord, ok. D'accord. Donc, vraiment, est-ce qu'on peut parler d'ordre moral, vraiment, quand il y a ça? Parce que vous me parlez d'une lecture, très bien, il y a des communautés qui... Oui, bon, voilà.
Je peux vous garantir qu'on peut parler d'autre morale. C'est-à-dire que le retour des valeurs, n'est-ce pas, etc.
Oui.
Le retour. Regardez le succès d'auteurs comme. On peut citer Le Destin français, etc. On peut citer. Voilà. Le retour de la morale, il est là. C'est-à-dire. Il se traduit dans un retour des quêtes identitaires, que je distinguerais de l'identité, mais des quêtes identitaires. Et le retour d'une quête identitaire s'appuie conjointement sur les valeurs morales et sur une religion au sens d'un culte que l'on pratique.
Mais oui, quand vous parlez, vous évoquez, bon, c'est Éric Zemmour, on peut le dire, bon. Oui. Voilà, ça, vous évoquez Éric Zemmour, oui, il n'y a pas de honte à le dire, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, peu importe. Mais c'est plutôt quand même, est-ce que c'est religieux, c'est pas plutôt du culturel? Vous allez me dire que c'est mélangé étroitement, sans doute, mais on est quand même dans la quête identitaire en question, elle s'appuie sur pas mal de culturel, d'histoire politique, bon, mélangé sans doute à des valeurs religieuses, mais en l'occurrence, je sais pas si c'est ça qui fait le fond de l'affaire, vous voyez ce que je veux dire?
C'est ce que Freud appelait la morale civilisée. Alors, nos approches sont pas si différentes.
Dans l'histoire de France, oui,
par exemple, on peut en parler en termes de malaise dans la culture,
oui,
si vous voulez.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Voilà,
oui.
Malaise dans la culture. Sauf que malaise dans la culture, vous trouvez très vite, conjointement chez Freud, l'expression morale civilisée. Et la morale civilisée, dans la morale de la civilisation, oui, c'est une morale qui, dont le surmoi, est triomphant et le surmoi est oppressif. Et on retrouve des types de souffrances qui sont plus du tout celles qu'a connues Freud, parce ouais, que le surmoi aujourd'hui, il est organisé un peu autrement, mais on retrouve ce type de souffrance avec un surmoi oppressif, oui, parce que tout simplement la place de la loi symbolique, alors, n'a pas été intégrée ouais, de la manière dont on aurait pu espérer dans une éducation à peu près saine. On a dit beaucoup crise de l'autorité, et bien la crise de l'autorité a fait le lit d'un retour actuel qui est une forme de bouche-trou, si vous voulez, oui, hein, qui vient suturer, qui vient boucher, obturer oui, la question ouais, de l'éthique. Hein, puisque oui, là, je distinguerai entre l'éthique et la morale. L'éthique oui, pose les questions, la morale, elle a déjà ses solutions.
Oui, mais en même temps, vous savez très bien que moi, les psychanalystes sont très divisés sur ce que vous dites. Il y a un grand débat chez les psychanalystes sur la loi du père, etc. Et voilà, et même Freud est accusé, j'avais reçu sur cette antenne un psychanalyste qui accusait presque Freud d'être un réac dans Malaise dans la culture,
oui,
en disant, vous voyez, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un réactionnaire, impénitent. Donc je peux dire que les psychanalystes sont très divisés sur ces question-là, et peut-être que...
Oui, bah, bien oui, heureuse division, parce que nous n'avons pas de magistère chez les psychanalystes. Oui. Et donc, quand vous interviewez un psychanalyste, c'est un psychanalyste qui parle et il n'est pas soumis oui, à l'obéissance d'une église. Hein. Donc, il est oui, un psychanalyste parle en fonction de sa propre analyse et éventuellement en fonction des cures qu'il a dirigées, oui, etc. C'est pour ça que vous avez trouvé, par exemple, on va citer la Manif pour tous, hein. Vous aviez oui, eu une variété à ce moment-là sur la question de filiation, vous avez pu entendre une variété de psychanalystes qui tantôt soutenaient la
voilà,
loi du mariage
voilà,
pour tous
voilà,
et tantôt
oui,
la désapprouvaient.
Oui, donc j'allais dire presque, non pas à partir de la même démarche, mais enfin une démarche appuyant sur les mêmes présupposés. Enfin, d'une certaine manière, c'est ça qui est assez étonnant, non?
Oui, parce
vous
que
pas ça, vous diriez pas ça comme ça, bien sûr.
Si, je peux le dire comme ça. C'est encore une fois, il y a pas d'enseignement officiel.
Oui, oui, oui. Mais enfin, vous rendez compte pour ceux qui nous écoutent que c'est extrêmement compliqué parce qu'on se dit à partir d'une même. Vous parliez d'un art tout à l'heure. Enfin, c'est intéressant. Donc, une formule que j'aime bien d'ailleurs.
Mais non, c'est complètement normal, puisque c'est à partir d'un art.
Oui.
Un art produit des tableaux, des musiques
oui,
différentes.
J'entends bien, d'accord.
Et donc, il y a autant, si vous voulez, de psychanalystes qu'il y a d'artistes.
En même temps, dans cet art-là, il y a un certain nombre de canons aussi, quelquefois, qui circulent.
Ouais, il y a des canons, oui. Les canons, ça veut dire qu'il s'agit d'écouter, il s'agit de... bien entendu, un psychanalyste ne travaille pas n'importe comment.
Oui, oui.
Mais il faut quand même bien se dire que... le psychanalyste ne doit pas être dupe de ses propres valeurs, de sa propre vision du monde.
Ouais.
Sinon, il va l'introduire dans les cures qu'il dirige,
ouais,
et ça peut être un peu problématique.
Est-ce que quelque chose quand même, avant, pour terminer sur cette question, enfin, on pourrait en parler des heures, il n'y a pas quelque chose quand même qui se laisse entendre à travers ce retour du religieux? Serait-il... C'est difficile de poser cette question. Je la pose parce que vous... Elle est un peu quelquefois dans certaines parties du livre. Voilà, vous-même, vous posez la question, après vous répondez, c'est difficile, etc. Dans le fond, dans un retour du religieux non monstrueux, hein, je m'entends bien, il n'y a pas quelque chose qui se laisse entendre. Alors c'est peut-être une nostalgie, vous évoquez une nostalgie, mais c'est peut-être aussi autre chose. C'est peut-être quelque chose qui peut mener à cette parole que j'évoquais tout à l'heure, à grand P, vous voyez ce que je veux dire?
Mais...
Même au travers de quelque chose de critiquable, bon, ce que vous dites dans le livre... Il peut peut-être y avoir, bon, je vais pas dire que le diable porte pied, hein, mais bon.
Non, ce qui, à mon avis, se laisse deviner, c'est une soif d'autre chose,
voilà,
si vous voulez. Une oui, soif, hein, un peu au sens du psalmiste, mon âme a soif de Dieu, etc.
Voilà, ouais.
Et donc, ce qui s'entend derrière, c'est une soif de spirituel, parce que l'univers techno-libéral qui est le nôtre est un univers qui étouffe. Oui. Qui étouffe sous les procédures, qui étouffe sous l'injonction à jouir et à réussir. Oui. Et donc les gens ont envie de, d'autres choses, c'est-à-dire d'une ouverture vers... alors ça peut être une ouverture vers la transcendance, appelons ça transcendance, appelons ça spiritualité, appelons ça Dieu, appelons ça mystique, mais quelque chose différent. Et de différent, et il n'est pas surprenant, figurez-vous, que la psychanalyse permette ça.
Oui. Vous dites très joliment, à plusieurs reprises, sur la fin du livre, dans le fond, le refus de s'adapter, parce que finalement, le système technolibéral nous demande une seule chose, c'est de nous adapter, y compris au travers de petites recettes, soi-disant thérapeutiques, qui sont des marchands de bonheur, des gourous du bonheur, la tyrannie du bonheur, je ne sais pas le mot qu'on emploie, mais vous dites, c'est une façon de dire... soit du côté de la psychanalyse, soit du côté de la foi, de faire le pas de côté nécessaire, finalement.
Ben, si vous voulez, les marchands du bonheur, c'est un peu la poudre à perlimpinpin de l'âme, mais...
Vous savez très bien qu'ils sont très puissants aujourd'hui.
Oui, ils sont très puissants, d'autant que leurs solutions sont des solutions à court terme qui sont les nouveaux médecins de l'âme, si vous voulez, qui ne sont pas très exigeants sur ce qu'ils demandent, ce qu'ils proposent.
Oui, d'accord. Mais enfin, c'est le bonheur en 40 leçons, c'est quelque chose que nos contemporains entendent.
Oui, mais très bien, mais la psychanalyse est une démarche longue, c'est une démarche qui demande du temps. Par exemple, vous parliez le temps, c'est ce qui manque le plus. Oui. Alors, le bonheur en 40 leçons, ça ne se déploie pas comme ça sur... je ne sais pas si le temps permet le bonheur, mais le temps, l'accès au temps, le déploiement du temps permet de redonner... de lester sa vie, de lui redonner du poids, de la gravité, autrement que par ce saupoudrage de recettes, de petites combines qui sont sympas et qui vont de la méditation, etc. J'ai rien contre la méditation, mais la méditation dans la grande tradition spirituelle chrétienne, c'est quand même beaucoup plus élaboré, construit, affiné, élaboré que les petites recettes à court terme d'aujourd'hui.
C'est pas le chef d'entreprise stressé qui va aller une après-midi dans un monastère pour penser à autre chose.
Le chef d'entreprise stressé, le système actuel le fait stresser, donc c'est ça le problème, et la solution qu'on lui apporte, puisqu'il est hyper stressé, c'est un petit peu de méditation.
C'est ça, voilà. Ça vous le dénoncez assez violemment.
Je suis pas dans une égide de dénonciation. Disons que je trouve ça un petit peu rapide et facile.
D'accord. Alors comment on fait, finalement, il nous reste 3-4 minutes, c'est la fin de l'émission, comment on fait pour passer, par exemple, d'une cure analytique qui parfois est nécessaire, ne serait-ce que pour se tenir debout et continuer à avancer, relancer le désir, comme vous dites, d'exister.
Encore que tous les gens n'ont pas besoin de faire une psychanalyse.
Ah non, j'entends bien, c'est pas ce que vous dites. Non, mais comment on fait quand on est dans ce cas-là pour ensuite rebondir autrement du côté de la foi? Parce que c'est bien ça le fond du problème de votre livre, finalement. Moi, j'ai compris ça, c'est-à-dire, c'est pas ni une apologie, ni une méfiance, c'est plutôt de se dire, voilà, les passerelles, les possibilité de se retrouver dans ces deux chemins, de les mêler à un moment donné, sachant que ce ne sont pas les mêmes.
La psychanalyse et la foi, vous me posez les deux questions conjointement, je donnerai des réponses très différentes, parce que c'est très très différent, ça n'a quand même rien à voir.
Oui, je sais bien.
Sur la foi, il s'agit toujours de retrouver l'appel initial du Christ qui dit « viens et suis-moi ». Et ça, je pense que dans toute vie aujourd'hui saturée, plombée par la logique techno-libérale, on peut encore avoir accès à cette source qui fait un peu comme Bernadette, si vous voulez, qui cherchait dans la boue, qui creusait pour que l'eau vive jaillisse. Et donc je pense que dans les vies qui sont complètement saturées, qui sont les nôtres, c'est encore possible. C'est d'autant plus urgent de retrouver ce goût, ce sel, cette saveur de l'Évangile. C'est ce qui compte le plus dans les vies qui sont bloquées, coincées, saturées comme les nôtres, c'est de retrouver le goût de l'Évangile. Et c'est quand même l'amour du prochain. Quand on est chrétien, c'est ça. C'est cet échange, c'est l'admirable échange qu'on peut construire les uns au profit des autres.
Oui, c'est ce que vous citez à la fin du livre. C'est-à-dire, vous parlez de Burin des Rosiers.
Je parle de Burin des Rosiers je parle de Jacques Hamel. Parce que ce qui est arrivé à Jacques Hamel, ce martyr-là, c'est ce qui a motivé la démarche de mon livre.
Très très bien. Bah merci beaucoup. Voilà, vous dites à la fin, vous citez Leonard Cohen, le chanteur, vous dites « Je vais retrouver, il y a une effraction en toute chose par laquelle peut entrer la lumière ». Voilà, c'est la fin de votre livre, c'est les dernières lignes. Merci beaucoup Laurent Lemoine. À très bientôt sur notre antenne. Merci à tous, l'émission est maintenant terminée. À très bientôt.